Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, à 2 mois des élections européennes, on explore l'influence numérique des courants identitaires et d'extrême droite. Si le Front National a historiquement investi la toile des années 90 pour diffuser ses idées alternatives et anti-système, comment s'opère aujourd'hui la propagation des propos extrêmes? De TikTok au podcast, en passant par les forums, quels sont les réseaux de la colère? Peut-on considérer, comme l'a annoncé la sociologue Jeanne Schrady, qu'Internet favorise de manière organique les idées radicales? Y a-t-il une filiation entre la culture web, ses détournements, ses mèmes et la culture d'extrême droite? Qui sont les nouveaux visages réactionnaires des figures féminines qui importent le mouvement américain des tradwives, où la place des femmes serait au foyer pour repeupler le pays contre la menace d'un grand remplacement? Comment définir le courant masculiniste porté par la haine du féminisme? Quel lien peut-on opérer avec les mouvances d'extrême droite? Et dans notre société fragmentée, ces manifestations identitaires se traduisent-elles en engagement politique? Beaucoup de questions et ce soir, 4 invités pour y répondre. En studio, Tristan Manès-France, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence associé à l'Université de Paris Cité, spécialisé dans les cultures numériques et membre de l'Observatoire du conspirationnisme. Vous suivez donc de près le déploiement numérique de l'extrême droite française tout en ayant un œil outre-Atlantique. Vous pourrez donc analyser les traductions nationales de certaines mouvances américaines. À distance depuis les studios de France Bleu Azur, Benjamin Teinturier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes doctorant au Media Lab de Sciences Po sur le renouvellement de l'engagement militant de la droite radicale sur Internet et les médias sociaux. Vous pourrez notamment revenir sur les différentes générations d'influenceurs d'extrême droite depuis les années 2000. En studio avec nous, Christophe-Cécile Garnier, bonsoir.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Je vous en prie, vous êtes rédacteur en chef adjoint du pôle enquête au journal indépendant Street Press. Vous pourrez nous parler de votre média qui mène en ce moment une grande enquête participative sur l'extrême droite française et invite le public à vous renseigner sur ces 150 groupuscules extrémistes. Enfin, à distance, depuis Madrid, où vous êtes en résidence, Gala Hernandez-Lopez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes artiste chercheuse et réalisatrice. Votre dernier film, La mécanique des fluides sur la communauté incel, les célibataires involontaires, a gagné le César du meilleur court-métrage documentaire en 2024, c'était cette année. Vous pourrez donc nous raconter votre infiltration dans cette communauté et analyser les fondements des mouvances masculinistes et des tradwives. Au programme également, une chronique de Marcus Dupont-Bénard, journaliste chez Numérama. Marcus reviendra sur les œuvres de fiction qui rendent compte de la vie, violence, du harcèlement scolaire. Quant à Juliette Devaux, elle nous livrera quelques bonnes nouvelles, tiens, les nouvelles d'un monde meilleur. Le meilleur des mondes s'écoute à la radio ou en podcast sur l'application Radio France. Continuez à vous abonner, à nous écouter, et cette émission se regarde aussi sur la chaîne Twitch de France Culture. Allez, c'est parti.
Dans l'Ancien Testament, Dieu créa le monde en 6 jours, alors qu'aujourd'hui, une seule image suffit.
Avec la logique algorithmique, chacun est dans sa bulle et regarde son contenu. Bientôt, il va même pouvoir le fabriquer avec l'IA, son contenu.
Getter, c'est un peu le nouveau Twitter de l'extrême droite qui a été lancé par un ancien conseiller de Trump. Donc c'est un réseau créé par un politique pour des influenceurs politiques.
Je veux faire une vidéo où je commande 200 mannequins, d'accord? Et avec ces mannequins, on simule une manifestation d'extrême gauche. Et avec Codrino, on éclate la manif à coup de 12.
À coup de 12, ça veut dire à coup de chevrotine. Vous venez d'entendre une des stars, on peut appeler ça comme ça, une star de la fachosphère.
This is a Fox News special report.
Millions of Americans sincerely believe the last election was fake.
En France, on parle régulièrement d'une extrême droitisation de l'espace médiatique.
Plus vous parlez d'un événement ou d'un sujet, plus vous amenez vos téléspectateurs ou auditeurs à considérer que le sujet est important.
À l'approche des élections européennes en juin, un analyste d'Europe Elects prédit que le résultat de l'extrême droite pourrait se résumer à la deuxième force politique au Parlement européen.
Alors, dans la série La Fièvre, actuellement diffusée sur Canal+, on en a entendu un court extrait dans ce montage sonore. On suit la progression d'une influenceuse identitaire d'extrême droite, une fiction qui se veut réaliste. On peut la rapprocher d'ailleurs à certains événements récents dans l'actualité, du drame de Crépole jusqu'à la polémique Aya Nakamura concernant sa présence à l'ouverture des JO. Benjamin Teinturier, en quoi finalement les réseaux sociaux amplifient les fractures identitaires ?
Leur fonctionnement économique, la façon dont les contenus sont partagés et circulent, fonctionne sur la réputation sociale. Il y a un marché de la réputation sociale. Et ça, ça va pousser les contenus fortement polarisants, les contenus violents, les contenus qui forcent à prendre position, les contenus qui vous font liker, vous font détester, vous font réagir. Et cette espèce de carburant dans l'organisation des plateformes, ça, ça peut expliquer l'espèce de prime donnée à la circulation des contenus violents, haineux, sur les réseaux sociaux, tant qu'il n'y a pas de modération.
Voilà, et on sait très bien que la modération, elle est loin d'être infaillible, elle est même assez faible sur certaines plateformes. Tristan Madès-France, finalement, là où on avait une promesse des réseaux sociaux qu'on connaît bien ici, de relier les gens les uns avec les autres, de faire communauté, alors effectivement, ça peut exister, mais là, Benjamin Teinturier nous parle d'un marché de la réputation, où il faut affirmer une identité de plus en plus fort, de plus en plus bruyamment. Donc ça, finalement, ça continue à générer, à creuser ces fractures identitaires dont on voit certaines manifestations dans l'actualité.
Oui, la polarisation, elle est effectivement assez induite. C'est un peu la matrice des plateformes sociales parce que elle rassemble les communautés. Et qui dit communauté, évidemment, il y a des communautés idéologiques de différentes natures, de différentes tendances. Et évidemment, ces communautés-là ont tendance à s'affronter. Et quand on s'affronte en communauté, ça renforce le nous contre le eux. Et donc, ça attise évidemment, ou disons, ça hystérise un peu le débat et ça accentue la violence, en tout cas en ligne. Et c'est effectivement un modèle assez porteur, en tout cas, pour effectivement les influenceurs d'extrême droite en général, qui savent bien jouer de cette polarisation. Ils savent à la fois exciter leur propre base, mais profiter de l'indignation en face pour gagner en visibilité, parce que l'indignation fait partie du plan com de l'extrême droite en général, c'est attiser l'indignation en face pour être relayé. Si on est relayé, on monte dans les tendances.
Voilà, donc là on parle effectivement des réseaux sociaux. Christophe-Cécile Garnier, en quoi Internet, même avant les réseaux sociaux, a toujours été un espace historiquement investi par les idées d'extrême droite ?
Oui, ben en fait, au tout départ, Internet, ça a permis l'expression d'une quantité de sous-cultures qui n'avaient pas forcément la parole dans des médias à l'époque qui étaient finalement très limités en termes de nombre. Et qu'on le veuille ou non, cette radicalité d'extrême droite se voyait comme une sous-culture et, selon elle, n'avait pas accès justement à ces médias. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont vu Internet comme un espace, un champ libre pour pouvoir en fait s'exprimer, ramener leurs paroles. Et ce qui fait que l'extrême droite, au final, a très rapidement pris le côté Internet. On parlait du FN, le FN était sur le Minitel. Le FN est le premier parti de France à s'être doté d'un site Internet. Donc il y a en fait une sorte de locomotive en fait qui s'est mis en place. Et aujourd'hui, c'est vrai que très souvent, la fachosphère est en avance sur à peu près tout ce qui est dans la culture Internet. Sur Street Press, on a publié un article en début de semaine, une enquête sur comment en fait l'extrême droite donnait corps à ses fantasmes avec l'intelligence artificielle.
En créant justement des images.
C'est ça, à partir de faits divers, en fait, tous les faits divers aujourd'hui qui n'ont pas. On voit qu'aujourd'hui, les faits divers qui marchent, c'est des faits divers où il y a des vidéos ou des photos ou la photo d'une victime, Lola, Thomas, qui évidemment provoque énormément d'empathie chez nous. Et donc, l'extrême droite, en fait, via l'intelligence artificielle, permet de plus en plus à mettre corps à des images qui, parfois, en fait, pour les gens, il y a des commentaires, il y a des spécialistes de ces images-là et on a direct des commentaires de personnes qui disent bravo pour la photo, quoi. C'est même plus une image artificielle, c'est une photo de la réalité.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien effectivement qu'ils ont investi cet espace dès les années 90 parce que c'était celui qu'ils avaient à disposition et qu'ils n'ont pas perdu cette avance parce qu'on aurait pu imaginer qu'à un moment donné, ils étaient rattrapés par d'autres tendances, par d'autres courants, mais ils ont toujours eu ce fameux temps d'avance. Que pensez-vous, Gala Hernandez-Lopez, de cette assertion de la sociologue Jeanne Schrady, que vous connaissez peut-être, qui nous dit que finalement, Internet est de droite?
Oh, waouh. Je ne sais pas si Internet est de droite. Je suis pas une spécialiste de la question. En tout cas, je suis d'accord avec l'idée que Internet polarise et appauvrit le débat politique et que on a tendance à devoir émettre des idées assez simples Je ne sais pas si Internet est de droite, peut-être mes collègues peuvent répondre.
Tristan Manassemans.
Oui, il y a une phrase qui est très populaire sur Internet dans les cultures numériques, c'est « the left can't meme ». C'est que la gauche ne sait pas utiliser les mèmes. En gros, l'idée derrière ça, c'est de dire que là, il n'y a que la droite qui a effectivement les codes en main et que tous les autres sont des has-been en ligne. Ils n'ont pas les codes et donc ils n'arrivent pas à communiquer. Ils sont vraiment en retard sur ce marché de la tendance et des usages branchés de l'Internet. « The left can't meme », c'est quand même assez symptomatique de ce que là, du fait que la droite a été en pole position de façon sur le terrain culturel, de l'expression culturelle numérique, depuis maintenant très très longtemps. On parlait du Minitel, mais ça continue encore aujourd'hui.
Oui, et puis c'est vrai que du coup, sur ce côté de mème, en effet, qui, selon moi, est faux, parce qu'il y a des très bonnes pages de mèmes de gauche, mais c'est vrai que l'extrême droite a tendance à faire du coup des mèmes sur des personnalités parfois hyper radicales. Il y a des mèmes, on en parlera peut-être, mais sur les forums, un forum comme Ave Noël, il y a des mèmes sur des personnalités comme Henri de Lesquin, comme Daniel Conversano, comme Alain Soral, sur l'élection d'Éric Zemmour.
Henri de Lesquin, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui c'est, qui a été réhabilité, qui a donné une sorte de nouvelle hype, nouvelle vague dans
Henri
la fachosphère.
C'est un monsieur très vieux, c'est ça. D'abord, donc vraiment qui n'aurait pas forcément pu parler à ces jeunes générations, qui a un gars qui fait partie de la nouvelle droite, qui est vraiment donc un courant de l'extrême droite, qui cherchait vraiment à infuser ses idées avec notamment le Club de l'Horloge. Donc c'était vraiment des personnes plutôt âgées de droite et plutôt bourgeoises. Et en fait, c'est position hyper raciste, quoi. Enfin, vraiment, il a tendance à utiliser les termes de négroïde. Hein. Enfin, on est à ce stade-là, enfin, finalement très ancien comme position. Ça a favorisé une sorte d'admiration d'une certaine jeunesse qui trouvait que ce gars, en fait, hyper raciste, était complètement libre et donc cool dans un sens, quoi. Et donc, on commençait à faire des mèmes avec lui, mais bon, de manière générale, l'élection présidentielle 2022, les Zemmouristes faisaient énormément de mèmes avec Zemmour aussi. C'est vrai qu'ils ont tendance à une qualité qu'on peut leur, quelque chose en tout cas qu'on peut leur reconnaître.
Une compétence en tout cas.
Oui, une compétence, exactement, merci. C'est qu'ils peuvent réussir à faire des mèmes sur n'importe quoi, même les choses les plus ultra radicales, quoi, sur des trucs antisémites, et j'en passe.
Benjamin Tinturier, on voit donc qu'il y a donc une adéquation, parfois même une hybridation entre la culture mème et cette culture, on va dire, des réseaux d'extrême droite. Ça a été aussi évoqué tout à l'heure, ce mot de forum. Il y a une importance justement des forums dans la libération de la parole.
Oui, il y a une importance des forums dans la libération de la parole. Et d'ailleurs, peut-être pour nuancer les propos de Jean Schradier ou les réactions sur le plateau, faut pas non plus imputer directement aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies, une responsabilité dans l'occupation de ces espaces numériques par la droite radicale. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, quand ces fameux forums, justement, ils émergent, on ne prévoit pas du tout que ça va se terminer comme ça se termine aujourd'hui. Vous avez des médiactivistes qui apparaissent pour qui les nouvelles technologies sont plutôt un moyen de donner la parole à des minorités invisibles et de finalement remplir une fonction de la démocratie libérale qui est celle de l'expression publique de tout un tas de minorités. Bon, finalement, effectivement, une de ces minorités, c'est contre-culture, comme l'a rappelé Tristan Mendès-France, donc effectivement, elle est produite des mèmes, c'est ce qui notamment fait d'elle une contre-culture. La droite radicale, elle a reformulé, en vérité, cette possibilité offerte par les réseaux sociaux comme une critique de la démocratie libérale, comme une critique des institutions qu'on pouvait désormais court-circuiter via des circuits parallèles d'expression.
Oui, c'était important effectivement à rappeler et à nuancer. Gala Hernandez-Lopez, vous, dans votre travail, dans votre documentaire, je l'ai dit en préambule, vous avez justement infiltré, du moins virtuellement, la communauté des incels. Alors on verra après s'il y a un lien entre les courants d'extrême droite et les incels, c'est vous qui allez nous le dire, parce que vous les avez côtoyés de près, mais en tout cas c'est un mouvement identitaire qui est aussi en souffrance. Est-ce que vous pouvez nous définir, nous expliquer précisément quelle est cette communauté des incels que vous avez côtoyée?
Oui, alors incel, c'est un terme qui vient de l'anglais involuntary celibate, donc c'est une communauté d'hommes qui ne parviennent pas à trouver de partenaire sexuel malgré leur désir d'en avoir une, et qui sont principalement nés en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, mais qui aujourd'hui existent partout dans le monde. Et oui, mon documentaire, il prend comme point de départ la lettre de suicide d'un membre de cette communauté qui a été publiée sur Reddit dans une communauté, un forum justement qui s'appelait Brain Cells et qui a été d'ailleurs fermé ensuite par Reddit en 2019 parce que Reddit a changé les politiques en termes de contenu violent, harcèlement, intimidation, etc. Et donc les incels aujourd'hui sont plus trop présents sur Reddit, ils sont plus présents sur des forums, disons, qu'ils ont eux-mêmes créé des sites comme incel.is par exemple. Voilà.
Et on peut voir justement dans votre documentaire, donc on va écouter un extrait qui est celui du cimetière des incels, puisqu'on parle effectivement des réseaux de la haine, des réseaux de la violence, donc là aussi la violence à l'égard des femmes, et puis la violence aussi contre soi-même. Et je pense que c'est important aussi pour bien analyser ces mouvances. On écoute donc un extrait d'un cimetière, le cimetière des incels.
Je me demande si votre point de contagion se trouve dans vos forums. Celui-ci, par exemple, que vous appelez votre cimetière, rassemble toutes vos notes de suicide. Plus je passe de temps sur vos forums, plus je les considère comme des chambres d'écho de votre peine.
Les gens disent « Comment cela peut-il se terminer alors que ça n'a jamais commencé ?» Non, il y a eu un début. Quand vous étiez petit, avant que vous n'ayez conscience de vous-même, avant que vous ne ressentiez la douleur du rejet, avant que vous n'ayez été blessé, il y avait une chance. Parfois, j'ai l'impression d'être sur une île, que tout le monde est dans sa barque, avec sa vie remplie, naviguant quelque part, et que je n'ai pas de bateau, que je suis juste bloqué, oublié.
Alors Benjamin Tinturet, lorsqu'on entend justement ces mots « je suis seul sur un bateau, isolé, oublié », on pourrait même dire « déclassé », tous ces termes-là, on peut facilement les transposer justement avec certaines mouvances d'extrême droite, de ceux qui ont peur d'être remplacés, de pas être finalement au cœur d'un système qui les aurait bannis finalement.
Tout à fait. Vous avez dit deux choses intéressantes dans la sélection des adjectifs. La première, c'est la solitude. Et c'est quelque chose qui est tout à fait qu'on retrouve dans les conseils qu'on donne à ce qu'on trouve donné sur Internet aux personnes pour critiquer l'ordre établi. Finalement, tout est l'objet d'un complot. On est seul dans le monde actuel. Faisons nos recherches nous-mêmes et on trouvera. On trouvera des preuves que on est manipulé, qu'il y a une oligarchie mondiale qui est plus forte que nous. Et raison de plus pour unir nos forces. Et le deuxième point, c'est le déclassement. Le déclassement dont vous avez parlé, ça fait référence à quelque part quelque chose de permanent dans le militantisme et le discours de la droite radicale. C'est le fait de défendre les vaincus, d'être du côté des ce que l'histoire n'a pas récompensé, des oubliés de l'histoire. Quelque chose qui était très présent, par exemple, dans le discours de Jean-Marie Le Pen, et qu'on retrouve aujourd'hui chez ces influenceurs d'extrême droite, dont on parlera plus tard, mais cette idée que, finalement, on n'est pas ceux que l'hégémonie culturelle, le discours ambiant félicite, gratifie. On est les déclassés, on est les vaincus, on est les petits, et il est temps pour nous de prendre notre revanche.
Christophe Cécile Garnier, merci Benjamin Tinturet. Vous vous y retrouvez justement dans ce portrait-là par rapport à ces différents groupuscules que vous analysez sur ce grand terrain de l'extrême droite et aussi de la falchosphère dans les deux espaces, un espace physique et un espace numérique. Il y a vraiment cette peur-là finalement.
Oui, complètement. Bah déjà sur l'espace numérique, enfin il faut citer le très bon travail de Paul Conge sur les grands remplacés dans son livre où il avait justement parlé de tous ces forums-là et avec voilà toute cette communauté en fait de personnes qui notamment des incels hein, qui se retrouvaient sur Ave Noël, enfin le forum Ave Noël, et qui se trouvaient déclassés et qui allaient de plus en plus vers des figures d'influenceurs d'extrême droite parce que eux finalement les avaient compris. Mais en fait, enfin cette communauté là, elle s'est déjà formée enfin autour de personnes depuis le mi-temps des années 2010 avec notamment la personne d'Alain Soral. Alain Soral, au départ, c'est avant d'être un idéologue antisémite, raciste, enfin on peut lui accoler beaucoup de qualificatif, c'est un pick-up artiste, c'est un dragueur, et en fait, il a d'abord eu un premier public qui était en fait comment réussir à, bah, pour parler un peu crûment, choper des meufs, quoi. Et donc en fait, il est rentré aussi pareil dans tout ce discours des pick-up artistes qui est de dire, bah, en fait, les femmes vont privilégier certains comportements, certains types de populations aussi, ce qui revient encore une fois à reparler, du grand complot que disait Benjamin Tinturier par rapport à ça, de ce côté déclassé en fait, où justement, on n'est plus favorisé. sociétés, nous, en tant qu'hommes blancs, quoi. Mmh. Et en fait, finalement, à réussir à construire après, via cette base, et d'ailleurs, les incels, il faut rappeler aussi que bah, les incels, ils peuvent être violents dans la réalité. Il y a eu des attentats terroristes d'incels, notamment au Canada, il y a quelques années.
Galère Hernandez-Lopez, donc vous qui avez, donc, je le rappelle, infiltré hein, justement cette communauté des incels. Alors, j'imagine qu'il y a de multiples courants, malgré tout, mais... Quelle analyse vous portez par rapport à une éventuelle traduction de ce mouvement-là dans une forme de parti pris politique? Est-ce que vous avez senti des filiations, une porosité entre cette culture-là et la culture de l'extrême droite au sens large?
Oui, je pense... A priori, les incels, c'est un mouvement qui se définit comme étant apolitique et comme étant très diversifié, en fait, sur le plan... politique et en termes de composition, disons ethnique, etc. Mais ça c'est comme eux, ils se présentent. Après, bien sûr, il y a des liens à faire avec l'alt-right. Il y a une évolution un peu radicalisée des incels qui sont les men going their own way. Donc les hommes qui suivent leur propre voie, quoi, qui sont des suprémacistes qui prônent un séparatisme masculin, donc se séparer des femmes, cette idée que on vit dans des sociétés gynocentrées avec un privilège féminin et que la seule moyen d'échapper à ça, c'est vraiment de couper tous les liens avec les femmes dans leur vie. Donc oui, bien entendu, il y a des liens avec l'extrême droite et il y a mais même si c'est vrai que en termes plus, on peut trouver de l'anarcho-capitalisme jusqu'à des incels qui se définissent et se présentent comme étant marxistes, communistes. Enfin, c'est un peu chaotique.
C'est un peu chaotique. Ouais. Vous avez raison. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de les définir totalement, de les réunir. En tout cas, on sent tout de même le rejet d'un système, le rejet de l'institution. Malgré tout, lorsque vous parlez de chaos, c'est aussi une posture qui s'inscrit comme ça en opposition. Néanmoins, Tristan Van Espronce, lorsqu'on parlait des incels, d'ailleurs ce sont des termes anglophones, on avait l'impression que ça se passait surtout aux États-Unis, on regardait ça de loin, les suprémacistes, l'alt-right. Depuis quand, en fait, avez-vous vu arriver ce phénomène dans l'espace numérique français? Est-ce qu'aujourd'hui, on parle encore d'un épiphénomène? Est-ce que c'est un phénomène beaucoup plus tangible, constant?
Alors, j'élargis un peu la focale au-delà du cas assez particulier des incels. Mais sur cette panique morale masculine qui infuse dans l'extrême droite internationale et qui est devenue, qui fait partie maintenant du corpus idéologique de toute mouvance d'extrême droite, quelle qu'elle soit en Europe ou autour de la planète. Moi, j'ai à l'esprit d'ailleurs cet animateur américain anciennement de Fox News, Tucker Carlson, qui avait fait un docu alors qu'il était encore sur Fox News qui s'appelait « The End of Men ». La fin des hommes, avec une sorte de documentaire panique qui semble dire que c'est la fin des hommes sur le terrain de testostérone face aux femmes qui veulent s'imposer face au bref à la civilisation qui s'écroule, masculine qui est en train de s'écrouler. D'ailleurs, avec au passage dans le documentaire la promotion du bronzage testiculaire pour essayer de promouvoir la testostérone et la masculinité. Bref, ça va partir assez loin, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le fait que ce discours-là a infusé de façon globale, hein, sur Fox News aux États-Unis, qui est le premier média américain quasiment, et donc il s'est mainstreamisé, totalement mainstreamisé, avec toujours cette panique morale de « on attaque la masculinité » et cette fragilité identitaire, quelque part, les incels en sont une expression.
Benjamin Tinturi, vous avez parlé justement des influenceurs, il y a eu plusieurs générations. On a vu que tout à l'heure, Christophe Cécile-Garnier a évoqué Alain Soral, peut-être qu'on peut lui accoler aussi Dieudonné, c'est-à-dire c'est cette première vague d'influenceurs. Puis on a une seconde, quelle est-elle, Benjamin Tinturi?
La seconde vague, elle se différencie, elle se positionne d'ailleurs en opposition à la première. Elle est celle que occupent des influenceurs comme Baptiste Marchais, Papacito, Le Rapport Dissident. La différence qu'on peut établir entre la première et la deuxième vague, c'est que, si vous voulez, Alain Soral, Dieudonné, ils incarnent ce moment pivot entre un militantisme traditionnel, proche des courants intellectuels, proche du débat d'idées. Alain Soral a monté une maison d'édition au sein d'Égalité et Réconciliation, qui est donc le parti droite des valeurs, gauche du travail qu'il fonde. Avec Dieudonné, il constitue une liste aux élections européennes de 2009, la liste antisioniste. Et ça, c'est des choses qu'on va pas du tout retrouver. À l'inverse, au départ, quand à la fin des années 2010, Raptor Dissident,
Baptiste Marchais, Papacito, apparaissent et deviennent de plus en plus connus. Eux, ils se positionnent à distance du débat d'idées, ils investissent davantage YouTube et ils embrassent tous les gimmicks de réalisation, d'éditorialisation des vidéos qui ont été éprouvées par des générations, enfin la première génération de YouTubeurs avant eux, qui étaient des YouTubeurs humour, lifestyle, etc.
Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils plaident leur propre paroisse et qu'ils se battent même plus pour une chapelle dont ils pourraient être des incarnants, mais il y a une sorte de démonétisation, puisqu'on parle de youtubeurs, de l'institution même politique. Vous souhaitiez réagir, Christophe Cécile Garnier ?
Oui, déjà réagir pour ce que vous dites directement. Il y a quand même une structure un peu politique générale qui, on va dire en simplifiant, mais est catholique, identitaire, et qui en gros a peur, dit que l'ennemi c'est l'islam et les musulmans. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut retrouver chez beaucoup de ces influenceurs français, en tout cas. Je vais penser à Baptiste Marchais, qui est un pseudo de son vrai nom, Baptiste Deodati, Papacito, mais il y a aussi les Julien Rochely, les Thaïs Escuffon, les Raptors Dissidents, tout ça, en effet, ça se retrouve. Et en fait, c'est vrai que la différence avec Alain Soral et Dieudonné, c'est que, eux, ils sont vraiment devenus idéologues, en tout cas, ils se sont affirmés idéologues plus tard. D'abord, ils se sont créés une communauté autour du divertissement. Du divertissement qu'il pouvait proposer.
Il préexistait, Dieudonné, effectivement, avait, même s'il y a eu un virage, en tout cas, il avait déjà sa base, il avait déjà d'autres fonctions, ça a été presque c'est une seconde vie, finalement.
Oui, complètement. En tout cas, soit il est devenu radical, soit il a assumé sa radicalité.
Exactement.
Ce qui, en effet, Baptiste Marchais, Papacito, eux, c'est vrai qu'au tout départ, les qualificatifs n'étaient pas, à première vue, des militants d'extrême droite. On ne les appelait pas comme ça. Et c'est vrai que Papacito, lui, s'est construit sur notamment son côté humoristique avec les FDP de la mode qu'il pouvait mener et tout son côté un peu le dernier des Visigoths, un côté un peu beauf, mais très franchouillard, quoi, mais qui plaisait à un certain public qui peut-être aujourd'hui, d'ailleurs, se reconnaît plus trop dans l'origine, je pense, de Papacito. Baptiste Marchais, c'est pareil. Baptiste Marchais, au départ, d'ailleurs, quand il est même invité pour la première fois sur le plateau de Cyril Hanouna pour un débat viande, anti-viande face à Solveig Allouin, il est présenté comme amateur de viande. Il n'est pas du tout présenté comme militant d'extrême droite. Et sur ses vidéos, c'est vrai que c'est beaucoup du bench, donc ce qui est une pratique sportive sur laquelle il a connu un certain succès, et énormément mangé en fait comme un gros viandard, mais qui pareil peut plaire. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'on a vu ces influenceurs, ils se sont déjà Benjamin Teinturier disait pratique des youtubeurs de divertissement, ils ont fait exactement pareil, ils se sont fait monter les uns avec les autres, en s'invitant, en faisant des contenus plutôt humoristiques. On a pu voir Thaïs Descuffon qui tire au fusil à pompe avec des mecs comme Code Reynaud, Baptiste Marchais qui invite des gens pour son repas de seigneur, où ça parle un peu de tout. Puis au final, au fur et à mesure, ça a quand même beaucoup dérivé, quoi. Mais bon, il faut rappeler aussi que certains de ces youtubeurs-là, ils viennent d'un passé militant. Thaïs Descuffon vient de Génération Identitaire, ça, elle a été connue par ça. Mais Baptiste Marchais, on a trop tendance à oublier, et ça, c'est Street Press qui l'avait révélé, qu'il a été militant chez Serge Ayoub, qui est quand même un haut niveau de radicalité politique.
Mais comme vous dites, il faut le révéler, c'est-à-dire qu'il ne s'affiche pas comme tel. Il faut aller le chercher.
Oui, c'est ça. Et puis, encore après, même quand il était militant, quand vraiment là, c'était connu qu'il était d'extrême droite, et que tout ça avait été révélé, il continuait quand même d'être beaucoup présenté dans les plateaux comme catholique, amateur de viande, sportif, et jamais trop vraiment le qualificatif militant d'extrême droite. Maintenant, c'est plus compliqué de ne pas le lui accoler comme avec Papacito, mais pendant très longtemps, ces personnes-là ont pu aussi bénéficier d'une certaine aura médiatique qui était un peu, ils sont sulfureux, mais ça ne va pas plus loin.
Alors, vous avez évoqué justement Thaïs Descuffon, on pourrait peut-être dire, mais ça, Benjamin Teinturet nous le dira dans quelques instants, il s'agit d'une nouvelle génération aussi d'influenceurs qui sont des influenceuses, parce que jusque-là, on avait beaucoup parlé de figures masculines qui renvoyaient justement à cette approche viriliste, conquérante, d'alpha, de mal-alpha. Peut-être qu'aujourd'hui, ce nouveau visage réactionnaire est un visage féminin, d'ailleurs, à l'image de la série que j'évoquais au début de cette émission, qui s'appelait La Fièvre et qui donc met en scène justement une influenceuse. On en parlera juste après. Eddie Depreto, qui, à sa manière, dans ce titre Kid, se moque et se joue des injonctions masculines. C'est dans Le Meilleur des Mondes.
France Culture, Le Meilleur des Mondes, François Saltiel.
Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à fer et dopé de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Eddie Depreto dans Le Meilleur des Mondes avec ce titre Kid. Vous aimez bien Eddie Depreto, Juliette ?
Oui, j'aime beaucoup.
Voilà, ben moi j'aime encore mieux votre journal qui arrive dans un instant.
Les nouvelles d'un monde meilleur. Juliette Deveau.
Et on débute ce journal avec des nouvelles d'un projet de loi porté par le gouvernement depuis des mois, la loi SREN, visant à sécuriser notre espace numérique, a enfin été adoptée il y a deux jours par l'Assemblée nationale. Si ce vote marque une étape décisive pour cette loi au parcours très tumultueux, le texte continue à susciter de vives oppositions. 75 députés ont voté contre la loi, issus de partis divers allant du Rassemblement national à la France insoumise. Parmi les inquiétudes soulevées par ce texte apparaît notamment un article mentionnant le délit d'outrage en ligne, car sa définition trop large et trop floue pourrait, selon certains, nuire à la liberté d'expression sur Internet. Des inquiétudes partagées par des associations comme la Quadrature du Net, qui estiment de manière plus générale que le texte relève d'une approche brutale et verticale, non adaptée à la réalité du web. Mais avant son adoption définitive, la loi SREN devra passer un certain nombre d'obstacles. Après avoir été contrôlée par le Conseil constitutionnel, la loi pourrait être bloquée par la Commission européenne pour non-conformité avec ses propres textes sur le numérique. Un parcours qui s'annonce encore long et qui, on l'espère, pourrait aboutir à la mise en place d'une régulation plus adaptée à nos espaces numériques.
Et l'on poursuit ce journal avec des nouvelles du monde de la musique, tout pour la musique.
Oui, on apprenait il y a quelques jours que la première plateforme de streaming musical Spotify allait proposer un nouvel outil à ses utilisateurs pour créer des playlists personnalisées grâce à l'intelligence artificielle. Alors que les suggestions automatisées qui existent depuis longtemps sur ces plateformes sont jugées peu satisfaisantes par beaucoup, l'idée de cet outil, baptisé AI playlist et d'inciter à une co-création entre l'utilisateur et la machine. Les utilisateurs devront en effet adresser des consignes écrites en langage naturel, ce qu'on appelle un prompt dans le jargon de l'intelligence artificielle, pour obtenir une playlist personnalisée. La firme propose par exemple de demander une playlist qui me donne l'impression d'être le personnage principal d'un film, et la plateforme générera une liste d'une trentaine de morceaux que l'on pourra modifier par la suite. Si rien ne nous garantit que cet outil s'avérera plus pertinent que les recommandations automatisées actuelles, l'outil aura au moins l'avantage de nous familiariser avec l'art du prompt que nous serons amenés à pratiquer dans les années à venir.
Et oui, on peut même appeler ça le promptisme, l'art du prompt. Et l'on termine ce journal avec des nouvelles d'un réseau social à la peine.
Oui, alors que le réseau social lancé par Donald Trump, baptisé Truth Social, avait fait une entrée en bourse en fanfare en mars dernier, atteignant une valorisation de 8 milliards de dollars, on apprend que depuis quelques jours, le cours de sa valeur s'effondre. Rappelez-vous, le célèbre républicain avait eu l'idée de lancer son propre réseau social après avoir été banni de Twitter et Facebook suite aux événements du Capitole en 2021. Mais alors que Donald Trump imaginait une plateforme concurrente conservatrice suffisamment puissante pour concurrencer les big tech de la Silicon Valley, la plateforme n'a séduit que 9 millions d'utilisateurs, majoritairement des soutiens de l'ancien président. Une base d'utilisateurs assez restreinte, donc, que Donald Trump n'a pas réussi à monétiser. Le régulateur financier américain révélait il y a quelques jours que Truth Social avait enregistré des pertes de plusieurs millions d'euros en 2023, faute d'annonceurs intéressés par la visibilité offerte par ce réseau. Des révélations qui expliquent la chute en bourse récente du réseau Truth Social. Une mauvaise nouvelle pour l'horizon économique de Donald Trump, mais un plaidoyer pour la création de plateformes plus modérées permettant l'expression du pluralisme politique.
Les nouvelles d'un monde meilleur à retrouver évidemment sur l'application Radio France. Nous sommes dans le meilleur des mondes et ce soir, on explore la nébuleuse de la fachosphère, des courants d'extrême droite, des incels, des masculinistes, pour essayer de mieux comprendre ce qui peut éventuellement les rassembler, quels en sont leurs réseaux, leurs outils. Nous sommes en compagnie de Tristan Madès-France, qui est maître de conférences associé à l'Université de Paris Cité. Nous sommes avec Christophe-Cécile Garnier, qui est rédacteur en chef adjoint du pôle enquête au journal Street Press. Nous sommes avec l'artiste et réalisatrice Gala Hernandez-Lopez, et avec Benjamin Taturier, qui est doctorant en Media Lab de Sciences Po, sur le renouvellement de l'engagement militant. Justement, Benjamin, puisque vous parlez de renouvellement, on y était, on a parlé de cette première vague d'influenceurs, la deuxième. Est-ce qu'on peut considérer que cette troisième vague emprunte quelques codes aux masculinistes dans des sortes de tutos de coaching? Est-ce qu'on joue aussi sur la séduction? J'avais parlé aussi des visages féminins. Quelle est cette troisième vague?
Il faut effectivement différencier deux choses, c'est-à-dire d'une part les idées qui sont défendues et d'autre part les formats qu'empruntent ces nouvelles idées. La première est celle qu'on voit apparaître, dont une personnalité emblématique pourrait être Andrew Tate, par exemple.
Rappelez-nous juste Andrew Tate pour nos auditeurs.
Cette forme d'amalgame entre à la fois un discours sur les masculinités et en même temps un discours sur la réussite professionnelle. Finalement, on ne retrouve plus les masculinités et une masculinité exacerbée dans le fait d'endosser des rôles traditionnels, qui étaient donc plutôt le cheval de bataille de Papacito, Baptiste Marchais, mais aussi dans la réussite financière, dans le fait de consentir totalement aux valeurs de la compétition généralisée du monde néolibéral et d'en être un gagnant. Ça, c'est le premier point qui pourrait définir cette troisième vague, même s'il y a évidemment des ponts avec la deuxième. Et j'ai parlé aussi également des formats. Ce qu'on voit apparaître, c'est une forme de déconnexion entre les personnalités, les influenceurs, influenceuses qui s'expriment, et la possession de la chaîne ou la possession du compte qui diffuse le format. Dans la deuxième génération, vous avez Papacito, Baptiste Marchais, Raptor Dissident, qui depuis leur propre chaîne YouTube diffusent du contenu. Là, dans la troisième génération, on a des formes de récupération par tout un tas de comptes sur TikTok, sur Instagram, des comptes de motivation, des comptes de coaching qui vont diffuser des interviews, parfois même des bouts d'interviews dans des reels très très courts d'Andrew Tate, de ce jeune youtubeur, La Menace aussi.
Benjamin Tenturier, oui. Pardon, Andrew Tate en deux mots.
Alors Andrew Tate, c'est un ancien champion de kickboxing qui joue aussi beaucoup aux échecs, qui s'est confronté à Greta Thunberg dans une espèce de passe d'armes par réseaux sociaux interposés, et puis qui a été également condamné, alors qu'il est résidé en Roumanie il y a quelques années, pour, il me semble, proxénétisme et trafic d'êtres humains.
Voilà, bon, c'est un beau pédigré qu'il aurait été dommage de ne pas rappeler. Vous parlez justement de coaching, de conseils en séduction. Je vous propose d'en écouter, pourquoi pas, quelques conseils. On pourrait tous en prendre de la graine. Ça se passe sur TikTok.
Gros, faut comprendre un truc. Les filles sont timides. Souvent, la meuf, elle est timide. Donc, toi, il faut que t'arrives avec ta masculinité. Si tu veux qu'elle te donne sa féminité, il faut que t'arrives avec ta masculinité et ta confiance en toi et que tu puisses la rassurer, lui donner envie justement de communiquer avec toi, d'échanger avec toi, de te revoir, etc. et d'apprendre à te connaître. Et pour ça, ça passe absolument par la confiance en soi. Joue avec tes atouts. Si t'es un mec qui a un putain de bon physique, arrive mon pote, congestionné, bras sortis, pull rempli, peu importe, bonne posture, t'arrives et t'imposes directement. Gros, si t'es marrant, utilise ton sens de l'humour. Si t'es intelligent, utilise ton cerveau. Si t'as de la thune et que la meuf, tu veux pas que ce soit la meuf de ta vie, utilise ta thune, gros.
Gala Hernandez-Lopez, dans vos recherches actuelles, vous avez aussi rencontré des académies de la masculinité. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ?
Oui, je travaille sur un nouveau projet de documentaire qui porte sur une autre communauté virtuelle qui est aussi principalement masculine, qui est la communauté des cryptos, enfin qui tourne un peu autour de la des crypto-monnaies, de la culture crypto, et plus largement un peu de l'entrepreneuriat, de ce culte un peu à la richesse, à réussir, à s'enrichir et gagner le jeu, un peu ce que Benjamin vient d'évoquer. Et oui, au sein de cette communauté, il y a beaucoup de coaching aussi en masculinité, souvent des académies. Enfin, moi, je m'intéresse à des académies espagnoles, mais je l'imagine qu'en France, il doit y en avoir aussi. C'est des académies qui proposent des formations en ligne pour apprendre à faire du trading avec des crypto-monnaies, mais ça va toujours accompagné de formations en développement personnel. En conseil sur santé mentale aussi, physique, un peu sport, entraînement, comment être en forme physiquement. Et donc moi, je m'intéresse un peu à comprendre pourquoi la finance aujourd'hui est accompagnée de ces discours un peu de comment s'améliorer, de comment devenir la meilleure version. C'est toujours cette phrase qui revient, la meilleure version de soi au sein de ces communautés qui sont en plus très souvent des arnaques en fait, des schèmes Ponzi, des arnaques pyramidales et qui essayent de capter beaucoup de jeunes, très très jeunes hommes de 20, 21 ans, 18 ans, pour leur faire payer des sommes un peu exorbitantes pour apprendre pour prendre ces formations-là, mais qui doivent aussi en même temps eux-mêmes devenir des recruteurs et recruter de nouveaux membres pour la communauté.
Tristan Manesmans.
Oui, je dois dire un mot qui est toujours un peu polémique et dangereux. C'est un peu de la kryptonite dès qu'on parle de crypto. Mais effectivement, il y a une partie de l'extrême droite internationale qui frétille avec tout ce qui relève de la crypto. Alors, ils sont pas les seuls. La crypto légitime. On peut s'intéresser au Bitcoin sans être d'extrême droite. Mais il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de profils d'extrême droite qui cherchent à, disons, récupérer tout cette une partie des gens, des crypto fans en ligne.
On le voit beaucoup aux États-Unis, notamment.
Oui. Alors franchement, les exemples, il y en a pléthore. Mais je vais juste rappeler deux ou trois exemples. On a quand même Steve Bannon, l'ex-conseiller de Donald Trump, qui en 2019 disait que la crypto serait la monnaie de l'extrême droite. C'est lui qui le dit. C'est pas moi qui le dis. Je prendrais pas ce risque. Mais on se rappelle aussi peut-être que Trump lui-même s'était amusé à lancer des Trump Cards qui étaient des NFT, donc c'est des trucs liés au blockchain, bref, ça relève un peu de l'univers de la crypto. Mais on oublie peut-être que Dieudonné avait lancé une crypto il y a quelques années qui n'a pas bien marché, qui s'appelait le Cestrel. Et avant lui, on avait un autre militant d'extrême droite belge qui s'appelle Laurent Louis, qui est un militant assez chargé en Belgique et qui lui avait aussi s'était fait condamner d'ailleurs pour des pratiques pas tout à fait claires autour de ce qu'on appelle le One Coin. Et puis on a Elon Musk, il faut pas rappeler, qui est quand même quelqu'un qui gravite autour un peu de référents plutôt d'extrême droite et qui lui a beaucoup joué sur le fameux Dogecoin, qui est une de ses monnaies virtuelles. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de référents à cet univers de la crypto, que je ne résume pas à l'extrême droite, sinon vous allez vous faire détruire en commentaire, en ligne, sous le podcast. Mais bon, voilà, c'est une réalité aujourd'hui.
Voilà, et puis pour ajouter, tiens, un nom à votre liste, on peut parler aussi du président du Salvador, qui se proclame comme le dictateur du cool, et qui lui-même a permis au Bitcoin de circuler abondamment dans son pays. Gala Hernandez-Lopez.
Oui, non, je voulais juste réagir pour à propos des liens entre Bitcoin et les crypto-monnaies et des idéologies un peu réactionnaires. Sur le plan économique et politique, il y a un livre que je voulais recommander de Nastasia Adjadji qui s'appelle « Nos cryptos, comment Bitcoin a envoûté la planète » et qui fait une analyse extrêmement fine de tout ça.
Voilà, bah vous recommandez un livre, moi je peux recommander une émission et un épisode du Meilleur des Mondes parce qu'on avait reçu justement cette autrice lors d'un entretien juste avant l'apparition de son livre où elle explique très bien toute la mentalité bro-crypto-libertarienne qui circule aussi à travers cette crypto-monnaie. Elle est elle aussi souvent l'objet d'insultes et de menaces par rapport à cette communauté qui se défend. Christophe Cécile Garnier, là on a à peu près cerné beaucoup de mouvances. La question maintenant c'est comment ça se traduit justement d'un point de vue électoral. On a vu justement en dernière élection présidentielle un candidat comme Éric Zemmour qui semble avoir réussi autour de lui à obtenir l'adhésion de ses influenceurs, influenceuses. Du moins c'est peut-être alors il n'a pas fait un score démentiel lors des résultats. 7%, on avait l'impression lorsqu'on regardait les réseaux sociaux, alors c'était peut-être une sorte d'astroturfing aussi qu'il était beaucoup plus présent. Néanmoins, il semble avoir rassemblé ces influenceurs, ces nouveaux influenceurs, influenceuses.
Bah, c'est vrai qu'en fait, il y a une partie de ces influenceurs-là, on a pu citer, enfin Benjamin Taturia par exemple, pu citer La Menace, hein, qui va être un peu, c'est pas le Andrew Tate français, mais disons qu'il veut aussi lui montrer... se montrer comme quelqu'un de très masculin, il faut assumer notre masculinité. Il reprend des éléments du discours d'Andrew Tate. La Menace avant, c'était un mec qui faisait des pranks sur YouTube, hein, donc ces énormes blagues qui étaient, enfin, parfois vraiment au détriment de certaines catégories de population. Je vous laisse deviner lesquelles. Et en fait, c'est vrai que ces influenceurs-là, ils se retrouvent parfois très souvent sur l'idée que, bah, encore une fois, cette idée de déclassement dont on a parlé, que la France, mine de rien, bah, on est un super pays et que aujourd'hui, la France n'est plus la France et qu'en fait voilà, faut prendre ce qu'on a à prendre du côté, ouais, sans doute des cryptos. Il y a aussi une logique, en fait, avec les crypto-monnaies d'être hors système, parce qu'on passe son temps, Tristan Manas France en connaît un rayon sur les complotistes, à voilà, ferrailler contre ce système avec un grand S qui existerait et qui serait contre bah, tout ce qui est de la mouvance, soit nationaliste, mais aussi, bon, bah, dans les complotistes, c'est aussi d'autres mouvances. Mais donc, du coup, se mettre dans les crypto-monnaies, bah, c'est se mettre, voilà, ouais, dans un.
Et puis, c'est désactiver l'État. C'est-à-dire que
oui,
là où l'État avait pour coutume de battre monnaie, c'est une manière aussi d'acquérir ce droit-là, cette possibilité-là, en sortant justement de tout giron étatique. Benjamin Tinturier, juste, j'aimerais vous faire réagir à une réflexion qui disait que l'objectif des groupes identitaires sur les réseaux, c'est moins de gagner la bataille électorale que de gagner la bataille culturelle. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, notamment lorsqu'on parlait de Jean-Marie Le Pen. On se disait mais que finalement, il ne voulait pas le pouvoir, qu'il cherchait à agiter la population, qu'il était dans la provocation, mais qu'il ne cherchait pas le pouvoir. On le retrouve aussi, encore une fois, dans cette série La Fièvre, où on entend parfois les propos de cette influenceuse d'extrême droite qui fait ça pour occuper un marché, un segment, mais qui ne cherche pas forcément le pouvoir. Est-ce que ça a changé aujourd'hui, ça ?
Donc effectivement, oui, c'est un vieux serpent de mer de la pensée de droite radicale en France. Ça remonte aux années 80, où la nouvelle droite fait un colloque, son 16e, je crois, sur un gramscisme de droite, et appelle de ses voeux un gramscisme de droite. En 2007, à la fin des élections présidentielles, quand Jean-Marie Le Pen est battu au premier tour, dans son discours, il dit, bah voilà, on a gagné l'hégémonie culturelle, on a remporté la bataille culturelle, puisque regardez, les thématiques autour de la sécurité, autour de la délinquance, ont vraiment donné le ton de cette nouvelle campagne. Alors, est-ce que, puisque le menhir, hein, le grand chef à l'époque de la droite radicale française, estimait ce combat déjà dépassé, est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas. L'autre chose qu'on trouve, et qui peut-être irait davantage du côté de l'argument de la conquête politique, c'est un discours millénariste, une eschatologie. L'idée que finalement, étant donné les circonstances actuelles, ça ne va que mal se terminer. On retrouve ça chez Alain Soral, on retrouve ça chez Baptiste Marchais, et on retrouve ça aussi chez Daniel Conversano. Et finalement, ça, c'est peut-être la réinterprétation politique de cette stratégie de la droite radicale. Il faudra être là au moment où, comme disait Alain Soral, ça va péter en France, au moment où il y aura un clash de civilisation, un conflit de civilisation inexorable. Et quelque part, c'est aussi ce discours-là qui est concurrent du discours traditionnel de la bataille culturelle qu'il s'agirait de remporter d'abord.
Oui, là vous agitez aussi effectivement la menace de la guerre civile qui est récurrente, qui est constante lorsqu'on s'intéresse justement à tous ces mouvements-là, puisqu'on s'amusait un peu en miroir à regarder ce qu'il y a de nouveau par rapport aux années 90, aux années 2000 et aujourd'hui il y a quelque chose quand même de fondamentalement nouveau, du moins je crois, Tristan Mendès France, c'est le changement aussi du paysage télévisuel traditionnel, c'est-à-dire que là où justement on comprenait que l'extrême droite est allée sur Internet parce qu'elle ne trouvait pas, elle avait les portes fermées des plateaux de télévision et qu'il fallait bien qu'elle infiltre un espace. Là, aujourd'hui, les plateaux sont ouverts. On a évoqué la chaîne CNews, on voit le JDD. Alors, effectivement, là, je cite des médias qui sont du groupe Bolloré, mais on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, cette parole-là, qui est assez extrême sur les réseaux sociaux, peut se retrouver sur un espace télévisuel et puis les deux s'entretiennent très bien, puisque de toute façon, les propos extrêmes d'un plateau de télévision vont se retrouver sur les réseaux sociaux. Ça a changé quand même.
Oui, même si on trouve quand même des précédents assez énormes avec Fox News.
Là, on parle des États-Unis. Moi, je parle du paysage français.
Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, on a une importation de ce modèle-là, de cette interaction qu'il y a pu avoir aux États-Unis entre un média fort, forte audience, et un réseau social, une effervescence folle de la radicalité et tout ça qui merge émerge en ligne. Eh bien, on a effectivement un peu le même phénomène en France avec retard. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qui était quand même assez notable, effectivement, c'est que cette radicalité en ligne, qui pouvait profiter de son propre buzz, de sa propre viralité naturelle, organique ou poussée par les algorithmes, trouve maintenant une synergie, clairement, avec des émissions ou des chaînes beaucoup plus mainstream, qui leur donnent, effectivement, une superficie beaucoup plus vaste que ce qu'ils pouvaient avoir auparavant. Et évidemment, il y a un jeu d'interaction, parce que les petits snippets, les petits extraits de passages assez radicaux qui passent sur des chaînes que je ne citerai pas, de radio ou de télévision en France, eh bien, se retrouvent évidemment comme matériaux de consommation et de viralisation en ligne. Donc il y a une vraie hybridation et synergie entre quelques chaînes, quelques médias aujourd'hui qui ont pignon sur rue et cette radicalité en ligne.
Benjamin Tinturi, on parle même parfois d'une volonté de faire de la réinformation. Est-ce que ce terme vous dit quelque chose ?
Oui, c'est un terme déjà assez ancien au sein des droites radicales. C'est toujours le même discours de contestation des institutions sur lesquelles la démocratie libérale, telle qu'elle est à l'œuvre aujourd'hui en France, repose. Et notamment au sein de ce système, pour reprendre une expression qui est commune du côté de la droite radicale, de la droite révolutionnaire même, au sein de ce système, les médias jouent un rôle central. Et de fait, tout discours médiatique, puis eu égard à ce rôle central joué par les médias dans le système, est condamnable d'emblée. Et donc, il est du devoir de nouveaux médias, voire même de médias installés, de réinformer. Pascal Praud, suite au drame de Crépol, parle de la réécriture de l'histoire que ferait Le Parisien, que ferait BFM TV. Et lui, au contraire, il revendique une espèce de bon sens, de proximité avec le réel et avec l'interprétation finalement immédiate des choses. Et c'est avec ce bon sens qui convient de réinformer pour dire vraiment ce que seraient les choses. Alors qu'évidemment, c'est aussi de la désinformation, c'est aussi une interprétation des choses, alors que même que l'enquête sur Crépol à l'époque, et même je crois toujours, n'est pas terminée.
Et est-ce que juste le fait que maintenant ce discours-là soit devenu plus mainstream, qu'il arrive justement à pénétrer notre sphère médiatique traditionnelle, est-ce que ça, en balancier, est-ce qu'il y a un discours encore plus extrême qui vient justement sur la toile, qui vient s'ajouter, ou alors les deux marchent quelque part sur un même pied.
Non seulement, plutôt moi je serais plus alerté par l'absolue normalisation de ces discours. Vous avez une responsable de parti, Valérie Pécresse, qui reprend pour elle la thèse complotiste du grand remplacement. Vous avez des médias traditionnels qui agitent des mots qui ne veulent rien dire, comme wokisme, islamo-gauchisme, qui ont une trajectoire ou en tout cas qui sont adoubés par les droites radicales. Ça me semble beaucoup plus dangereux que des formes de discours très radicales qui pourraient émerger comme ça dans les douves trouve du web sur le dark web ou sur des plateformes très très peu vues comme ou très très peu un très faible public comme Odyssée par exemple. Voilà, moi j'irais plutôt dans ce sens-là et je serais plutôt alarmé par ça.
Merci beaucoup. Marcus Dupont-Bénard est arrivé dans ce studio. Marcus qui arrive toujours avec normalement dans ses valises un peu de pop culture, de fiction. Lorsque Marcus a découvert le thème de cette émission, il a voulu s'attaquer justement au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement qui peut parfois derrière dans ces phénomènes d'actualité, on l'a vu encore récemment, être très corrélé à l'extrême droite. Bravo pour ce choix, Marcus.
Je voulais effectivement revenir à la source du problème selon moi, parce que l'extrême droite sur les réseaux sociaux pose la question de l'origine de la violence systémique et des rapports de domination. Cette violence s'installe en fait très tôt, à l'aube de nos vies, c'est le harcèlement scolaire. Et ce fléau, il prend de nos jours une forme numérique, le cyberharcèlement. Une étude de l'OMS en 2024, menée dans 44 pays, montre que 16% des enfants et des ados ont vécu du cyberharcèlement, un chiffre qui est en nette augmentation depuis 2018. Le nombre de jeunes qui commettent du cyberharcèlement est lui aussi en augmentation. L'OMS estime dans cette étude qu'on peut parler d'un enjeu lié aux droits de l'homme.
Alors toi qui justement la fiction, est-ce que il y a des œuvres qui parviennent à parler de ce sujet?
Alors oui, justement, la meilleure série sur le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire, c'est Al-Rawabi School for Girls, une série jordanienne sur Netflix. Elle est anthologique, à chaque saison, son histoire dans le même lycée. La première saison est dédiée à une ado harcelée qui met en place un plan pour se défendre. La saison montre bien toutes les mécaniques du harcèlement et comment cela se déploie, à la fois dans le monde physique et dans le monde virtuel. La seconde saison est entièrement axée sur les réseaux sociaux. Sarah rêve d'être connue sur TikTok, mais quand ce sera réellement le cas, sa vie va tourner au cauchemar. Voici un extrait.
Partager sa vie sur les réseaux sociaux, c'est vital.
J'ai adoré ton défi spécial rentrée.
Quand t'as le temps, tu pourrais regarder la mienne.
Fais-moi voir ce truc. Qu'est-ce que c'est?
Silence!
J'en avais assez que tout le monde m'ignore comme si j'existais pas. T'as vu le nombre de followers qu'elle a sur les réseaux ?
Rares sont les séries télé qui parviennent à intégrer réellement l'usage et l'impact des réseaux sociaux dans la vie des personnages. Al-Rawabi School for Girls y parvient et elle montre quelque chose d'aussi important. Les réseaux sociaux amplifient ce qui existe. Ils ne créent rien de fondamentalement nouveau.
Alors, ils ne créent rien, ils amplifient, mais ils amplifient quoi précisément ?
Il y a un excellent livre, un excellent roman qui y répond. Elle a menti pour les ailes de Francesca Serra. L'héroïne, Garance, rêve de faire partie des populaires du lycée, sauf que les intentions de celles et ceux qui l'entourent n'ont rien de bienveillante. Mais un jour, Garance, alors qu'elle est omniprésente sur les réseaux sociaux, disparaît. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est l'objet du roman. L'autrice réussit à parler du cyberharcèlement de la meilleure façon. Non comme la source du problème, mais comme une sorte de haut-parleur. Je trouve qu'on divise un petit peu trop souvent le cyberharcèlement d'un côté et le harcèlement scolaire de l'autre. Les réseaux sociaux ont mis en lumière ce qu'il se passe dans les écoles, collèges, lycées. La construction de la domination. C'est là que se réinstalle à chaque génération la hiérarchie sociale, la loi du plus fort, les discriminations. Aucune utopie ne peut naître tant que la domination nous est apprise à l'aube de nos vies. Si la violence systémique est un problème politique et que cette violence naît à l'école, alors on ne peut pas améliorer les rapports humains sans traiter le problème à la source. Le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement qui en découle sont des urgences politiques absolues.
Merci beaucoup Marcus Dupont-Bénard pour cette chronique politique. Une fois n'est pas coutume, et puisque vous avez évoqué les séries, je renvoie donc de nouveau au documentaire de Gaëlle Hernandez-Lopez, La mécanique des fluides, que je vous invite à voir et qui a remporté le César en 2024, parce que peut-être que l'art pourrait être un moyen d'arriver à échapper à cette société polarisée. Je renvoie aussi à l'œuvre de Street Press avec cette enquête participative où on vous invite tout simplement à venir renseigner sur les groupuscules d'extrême droite. Et donc Christophe Cécile Garnier, merci d'avoir été avec nous. Tristan Mendès-France, merci aussi pour votre participation, ainsi qu'à vous Benjamin Teinturier. Un remerciement aussi à Lucille Ronfron qui nous a conseillé les travaux et la recherche de Gaëlle Hernandez-Lopez. De mon côté, je remercie à la préparation de cette émission Juliette Deveau, accompagnée par Ludine Storelli, à la réalisation ce soir Perret Legras, à la technique son Allez. Alex Dang et à la vidéo Grégory Vallon. Et puis un dernier mot, bien sûr, pour vous parler de notre chère réalisatrice des matins de France Culture, Mydia Portis-Guérin, qui nous a brutalement quitté cette semaine. On pense forcément à elle. Elle est toujours présente dans les couloirs de la radio et je ne pouvais pas terminer cette émission qu'elle écoutait, elle qui était fan de science-fiction et des nouvelles technologies, sans lui rendre hommage. Le meilleur des mondes se termine, donc rendez-vous la semaine prochaine pour, pourquoi pas, de meilleures nouvelles.